Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein ? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein ? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein ?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Merci beaucoup Eugénie, à la semaine prochaine. Salut à vous, vous qui aimez le vélo, qui aimez l'objet, qui aimez l'outil ou l'instrument. Bienvenue et merci d'être avec nous. La première diffusion de cette émission Rayon Libre sera le lundi 7 novembre 2022. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM, écoutable évidemment en Ile-de-France. L'écoute est aussi disponible sur Internet, la DAB+, le Canal 9. On a aussi une appli compatible iOS ou Android. Bref, vous pouvez nous écouter partout dans le monde. Cette émission est donc enregistrée le 21 octobre 2022. Merci. Merci à Olivier Gréco derrière qui va faire les retouches et le montage pour la mise en ligne. Si vous êtes podcasteur, vous avez envie de le devenir, vous cherchez un studio bien équipé avec une bonne équipe pour vous accompagner, contactez la radio, cause-commune, aura la formule qui vous ira et on n'oubliera pas d'appuyer sur le bouton enregistrer, c'est promis. Donc aujourd'hui, on va parler du vélo objet de désir, de liberté et de plaisir. Et pour en parler, nous recevons Jean-Louis Fréchin, qui est fondateur de ce studio de design qui s'appelle No Design, et Loïc Le Guen, qui est designer associé. D'ailleurs, nous ne les recevons pas, c'est eux qui nous reçoivent dans leur studio, dans le 11e arrondissement à Paris. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jean-Louis. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Donc on vous reçoit parce que vous lancez le 8 novembre 2022 une exposition à la Cité du Design à Saint-Étienne qui a pour le thème « Faire des vélos ». Racontez-nous, faire des vélos et non pas faire du vélo, ça veut dire le fabriquer, l'objet.
Oui, on a eu la chance de rêver d'une exposition et d'être invité à la réaliser. L'expo s'appelle « Bicyclette, faire des vélos ». L'idée, c'est de revitaliser, l'idée, c'est de réveiller l'idée de la fabrication et de dire qu'avant avant l'injonction à faire du vélo, se déplacer, aller travailler, utiliser les vélos parce que c'est bon pour l'environnement et la santé, c'est de se dire qu'il faut des gens pour les fabriquer. Et plus ils sont fabriqués près de chez nous, et meilleur c'est pour la planète, meilleur c'est pour l'emploi, et puis pour... des objets qui parlent de nous. Un vélo, c'est comme un film ou un livre, ouais. Ça raconte des histoires. Et un vélo fait à Lyon, un vélo fait en Bourgogne, un vélo fait dans les Alpes. Il dit, je connais les Alpes, je sais que ça monte, je vais faire un vélo adapté pour monter dans les Alpes. Et on peut l'utiliser à Paris.
Et donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant l'objet. Et puis en plus, vous êtes designer, donc enfin, vous, c'est vraiment l'objet qui vous intéresse.
Alors, c'est les objets qui nous intéressent, mais au-delà des objets qui vont être présentés, c'était de parler des concepteurs, des ingénieurs, des designers qui sont à l'origine de ces inventions et de ces machines fantastiques. C'est une exposition à Saint-Étienne, c'est pas neutre, qui était la capitale mondiale du cycle jusque dans les années 80. Mais on n'a pas voulu faire une exposition nostalgique, surtout... ces grands constructeurs qui ont disparu, on a voulu se poser la question de est-ce qu'il y a un renouveau de la culture du cycle en Europe et y a-t-il des inventeurs, des ingénieurs, des entreprises qui refabriquent et qui inventent les nouvelles machines à deux roues?
Est-ce que dans l'approche que vous avez sur cette exposition, vous parlez de l'artisanat et de l'industrie, ou est-ce que vous les mettez en opposition l'un et l'autre, ou est-ce que l'atelier est l'antichambre de l'industrie? Jean-Louis, quelle est votre position là-dessus, ou en tout cas votre vision?
Quand on est designer, on est forcément un peu le thermomètre de l'état industriel du pays. Bon, chez nous, le thermomètre est cassé, parce que l'industrie est tellement réfrigérée que... non, il faut surtout pas opposer artisanat et industrie. L'artisanat, c'est le laboratoire de l'industrie plus tard. Ouais. Donc les deux sont extrêmement dans une continuité. Et on connaît des artisans français, Mathieu Cholette, Pêche Trégon, pour pas le citer, qui travaillent pour des grands groupes industriels qui font des vélos en très très grande quantité. Alors bien sûr, ils n'ont pas les mêmes convictions, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils font pas les mêmes
ils
produits.
Ils n'ont pas les mêmes moyens.
Ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais en tout cas, l'intelligence de conception peut être partagée. Et il faut bien recommencer par quelque chose.
Un vélo.
Et donc, ce commencement commence d'abord par ce génie des artisans français qu'on peut observer au concours de machines, qui refont une tradition des vélos de voyage, des vélos de cyclotourisme, pour les plus anciens, de qualité, un peu haut de gamme, souvent sur mesure, souvent en acier, avec un renouveau de l'acier. Et eux, finalement, sont un cahier de tendance à ciel ouvert qui permet de se poser la question de reconstruire le vélo. Alors après, il y a d'autres marchés. La ville, l'urbain, le travail, etc., etc.
Alors, on reviendra sur ce sur ces différents usages et différents marchés. Là, ce qui m'intéresse, c'est que vous parlez de matériaux, vous parlez d'acier. Dans votre exposition, est-ce que vous proposez est-ce que l'acier est le matériau de demain, ou est-ce qu'on parle de carbone, de plastique injecté, de bambou? Est-ce que vous avez tous ces matériaux-là, et quel est le regard du designer là-dessus?
Oui, on a un large panorama des matériaux, des mises en œuvre pour fabriquer des vélos. Nous, on croit beaucoup à l'acier pour ses qualités de durabilité, de recyclabilité. Et parallèle de cette exposition, on a, pour rentrer dans le thème, fabriqué un vélo, créé un vélo de toute pièce jusqu'à son cadre. On est rentré en partenariat avec un industriel de Seine-et-Marne qui étire des tubes à froid pour l'industrie aéronautique et automobile, et qui, avec notre demande de faire un tube de très très gros diamètre pour rentrer une batterie, pour fabriquer un vélo électrique sur mesure en acier, nous a dit, écoutez, je reçois des demandes comme la vôtre deux ou trois par semaine, et moi je sens qu'il y a quelque chose qui se passe sur les vélos cargo, et il a relancé une production de tubes en acier avec nos spécifications, et on a commencé à travailler comme ça avec Osborne Metal, qui aujourd'hui relance une marque de tubes Excel qui avait disparu.
Et donc là, on est en train d'arriver sur de l'acier made in France, du tube acier made in France.
Tout à fait, il vient de chez ArcelorMittal dans l'Est, et il est transformé à Longeville. Mais il y a aussi des vélos en bambou, avec des bambous calibrés faits à Anduze près de Nîmes, avec des diamètres constants, il n'y en a pas en Chine.
Calibré, ça veut dire, c'est ça, ça veut dire que c'est toujours le même, l'éleveur.
Ils ont toujours le même diamètre, ils ont une espèce de diamètre constant, ils sont élevés, vraiment très très bien gérés. Et un fabricant à Lyon, Cyclique, deux marques de vélos, un plutôt haut de gamme sur mesure, un plutôt de série avec des tailles standards, en bambou, avec des caractéristiques, c'est pas pittoresque, le bambou, c'est un matériau qui a des caractéristiques de souplesse et de flexibilité comme un arc, et de revenir en place, ce qui est très important pour un vélo.
Une élasticité,
Une élasticité, une tonicité également. Absolument fantastique. Donc c'est tout à fait intelligent. Il y a Antoine Fritsch qui a été un peu le précurseur des vélos en bambou en France, fait un célèbre vélo pour Hermès. Et puis le carbone, faut pas oublier que Vitus et puis Look ont été les précurseurs des vélos en carbone en France, et les vélos monocoques chez Look, c'est très très important. Donc on a des experts du carbone absolument fantastiques, Corima qui appartient au groupe, qui fait des roues parmi les plus belles du monde, Mavi qui fait aussi des roues en carbone. On maîtrise très bien le sujet. Et donc on a quelques arguments pour dire un vélo français a quelque chose.
Et justement, dans cette exposition, quand vous parlez de Corima par exemple, vous montrez l'objet vélo, mais un vélo c'est 200 pièces, donc il y a aussi des roues, il y a aussi des moyeux, il y a aussi et tout ça, vous le montrez aussi comment c'est fabriqué, ou en tout cas vous allez un peu plus loin sur regarder comment c'est fabriqué, regarder ces objets.
J'aime bien à dire que l'exposition c'est un cabinet de curiosité pour tout le monde, regarder des machines merveilleuses et se dire celle-là elle est pour moi, celle-là elle me va pas du tout, celle-là elle est belle, elle est pour moi, celle-là elle est à ma taille. Et puis donc le cabinet de curiosité, et puis l'atelier c'est l'endroit où on fait les choses, l'endroit où on comprend les choses. Le cabinet de curiosité, c'est l'endroit où on voit les choses. Donc dans l'atelier, on a vraiment des vues ou des mises en avant, parfois dans des tableaux un peu magnifiés, ou des découpes de roues en carbone Corima pour comprendre comment c'est fait, comprendre qu'une roue s'est rayonnée avec des fils de carbone, et puis qu'on vient tendre le moyeu comme dans une guitare, comme un chevalet de guitare, c'est tout à fait étonnant. Ça permet de décrypter un peu, de démystifier comment sont faites les choses, comment sont faites les roues. Maquin, grand fabricant de roues, on a visité l'usine, c'est absolument incroyable. Ça permet de comprendre, et quand on comprend, on aime, on se souvient. Voilà.
Oui. Vous vouliez rajouter quelque chose, Loïc? Non. L'objet, très bien. Justement, là, tout à l'heure, on parlait de l'atelier. Cette exposition, donc, c'est dans un lieu, mais il va se passer aussi des choses autour. Donc, quand on comprend, on aime. Ça veut dire aussi comprendre ce vélo, comment il fonctionne, comment on le répare. Il y aura des ateliers comme ça, des animations pour les visiteurs et les familles.
Oui, il y aura des ateliers avec des associations stéphanoises autour de la réparation. Oui. Du vélo, savoir changer, démonter un pneu pour changer la chambre à air. Il y aura des balades à vélo, il y aura un cycle de conférences avec des invités d'honneur pour, après l'atelier, le salon, parler du futur de cette industrie. Donc oui, il y a tout un cycle d'événements organisé autour de l'exposition.
Et puis, ouais, il y a aussi, quand il pleut, il y a aussi un simulateur de vélo qui permet de monter le dernier kilomètre du col de la République, hein, la première course organisée par Paul de Vivi, Vélocio, grand Stéphanois qui a un peu terrorisé l'humanisme du vélo. On va pouvoir monter et souffrir au chaud, hors de la pluie, et faire la course avec son voisin d'à côté.
Donc là, on est sur du home trainer.
Voilà. Et une simulation qui a été faite spécifiquement par l'exposition, ouais, qui reproduit cette montée légendaire, c'était les 100 ans cette année, hein, du col de la République, qui a quand même une grande figure du Tour de France et de la vie vélocipédique stéphanoise.
Donc ça veut dire qu'on peut y aller à vélo et qu'on peut faire du vélo sur place.
Tout à fait.
Magnifique. Et c'est l'heure de la musique et de la pause agenda. L'agenda va être très simple aujourd'hui. Tout simplement, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à vous rendre à Saint-Étienne, à la Cité du Design, pour aller voir de vos yeux tous ces beaux vélos que Jean-Louis et Loïc ont mis en avant et en valeur. Et pour la musique, et ben c'est High Above the Iron, un morceau proposé par John Bryant. Ça dure 1 minute 45, donc on se retrouve très vite. Vous êtes sur Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM. À tout de suite.
High above the iron you will see, high above the iron she will be.
Et nous voilà de retour, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, vous pouvez aussi bien sûr nous écouter sur internet, on aborde la deuxième partie de Rayon Libre. Aujourd'hui au micro, eh bien, nous avons Loïc Le Guen et Jean-Louis Fréchin qui nous présentent l'exposition qui met en place à partir du 8 novembre à Saint-Étienne. Tout à l'heure on parlait du choix de Saint-Étienne, est-ce que cette exposition à Saint-Étienne, vous vous adressez à des spécialistes ou vous vous adressez à qui ? Selon vous, qui va venir vous voir ? Qui va venir voir cette exposition ?
C'est une expo pour tout le monde. C'est vraiment une expo populaire. L'idée, c'est de faire rêver avec des vélos. Mais on a des vélos qui sont très chers. Et on a des vélos qui sont extrêmement accessibles et qui sont devenus même des icônes. Je pense au 520 ST de Decathlon, qui est vraiment un vélo vraiment formidable, qui est peut-être le meilleur rapport qualité-prix du moment. Bon, donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres, pour toutes les origines. C'est vraiment une expo facile à comprendre, on voit des belles machines et puis on peut faire du vélo. Après, c'est là la beauté. Saint-Étienne, c'est pas neutre, c'était la capitale du vélo, c'est l'endroit du musée d'art et d'industrie où il y a parmi les plus belles collections de cycles en France. On connaît bien les réserves, on les a visitées, enfin, c'est incroyable.
Jean-Louis, vous parlez du vélo avec une vraie passion. Le vélo, c'est un vrai sujet pour vous dans votre vie.
Les machines en général, le génie humain et la force productive disent que nous sommes. On convainc pas le monde en faisant des services et des assurances. Par contre, quand on voit un Opinel, un Verdure Alex, une Twingo qui fête ses 30 ans cette année, un Airbus A380 ou un vélo
Victoire,
on dit des choses. Et c'est mon métier. faire des choses qui parlent aux gens. C'est mon métier. Et le vélo, c'est iconique pour ça. Alors, je trouve qu'il n'y a pas assez de design dans le vélo, mais le vélo, c'est ce qui nous a fait sortir du cheval. Hein. Le vélo, il a remplacé le cheval.
No design, vous avez été... Donc là, vous, ce que vous nous disiez, vous créez un vélo pour, pour l'exposition, mais est-ce que vous avez été déjà appelé par des entreprises, des industriels du vélo pour dire dessinez-moi un vélo?
Non.
Non.
Par contre, on a dessiné une pédale connectée qui générait sa propre énergie avec un antivol qui a eu un prix à Taïwan, qui est aujourd'hui le Vatican du vélo. On a quelques aventures dans le vélo, mais on n'a pas designé un vélo pour un industriel. Donc on a dessiné le nôtre, en fait.
Vous avez dessiné le vôtre. Quand vous lancez l'idée de cette exposition, c'est ce que vous me disiez, vous attendiez à trouver une industrie et des artisans, un truc un peu moribond, et finalement vous mettez la main sur un trésor qui bouillonne. Comment ça s'est passé? Comment a été accueillie l'idée de faire une expo vélo de la part de tous ceux que vous exposez? Et ceux que vous n'exposez pas aussi d'ailleurs. Comment ils ont réagi?
Donc oui, effectivement, on a été un peu étonnés des projets qui fourmillent en France. Première réaction de la plupart des entreprises, c'est « Ah, mais c'est un salon, ça dure un week-end, est-ce qu'il faut être là? Est-ce qu'il faut amener du personnel? Combien ça coûte ?» On dit « Non, non, c'est une exposition culturelle, on vous invite. » Ça, c'est première surprise. Ils sont pas habitués à être considérés comme... un objet de culture.
Ouais.
Et puis, ensuite, souvent, ils sont débordés en ce moment.
Ouais.
Pas du tout. Ils n'ont pas le temps. Donc, ça a été très compliqué. Il y en a qui ont refusé parce qu'ils voulaient être présents, mais ils n'avaient pas de vélo.
Ouais.
Présenter, même des grandes marques. Donc, ça a été vraiment... C'est une industrie qui est en train de grandir, en tout cas en Europe, où les gens sont passionnés, ont envie de montrer ce qu'ils font, mais n'ont pas forcément la disponibilité, la ressource humaine pour faire ce qu'ils aimeraient faire.
Mais on sent clairement, je connais bien l'Allemagne, on sent clairement qu'on est un pays littéraire, on n'est pas un pays de faiseurs. C'est-à-dire que tout à coup, ces gens qui faisaient des vélos, on leur disait, on va vous mettre dans une expo culturelle, c'est un peu comme un musée, mais voilà, ça ne dure que 6 mois. Ils disaient, mais on fait que des vélos, nous. Tout à coup, mais j'ai rien à faire au musée. Moi, c'est assez étonnant.
Mais d'ailleurs, est-ce que le vélo a une place dans un musée? Est-ce que c'est pas plutôt dans la rue la place d'un vélo?
Mais bien sûr. Mais à un moment, les objets sociologiques, les objets qui ont une histoire, les objets qui disent un petit peu de nous, les objets qui parlent de notre pays à cause du Tour de France, à cause de Hino Anctil, à cause de nos paysages. On n'y est pour rien. On en a hérité de nos paysages. Mais tous les gens qui ont fait du vélo en France, à cause de notre réseau routier. Qui n'est pas lié au vélo, qui est lié à l'automobile, mais qui permet de faire du vélo dans des endroits improbables, jolis,
où il y a très peu de voitures.
Le vélo devient un élément de notre patrimoine, la petite reine. Le vélo, en France, est la littérature.
D'ailleurs, justement, est-ce que...
Blondin, etc. Ouais. Enfin,
est-ce que vous allez plus loin dans l'aspect culturel? Est-ce que, par exemple, il y a des propositions de livres pendant l'exposition? Est-ce qu'il y a des films?
Alors, tout à fait. Alors, il y a une sélection de livres assez complète, hein, à commencer par les écrits de Vélocio, Paul de Vivi, Blondin, etc. Des bouquins avec des images de vélo, de design, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des films... Angelo Chiacchio, qui est le troisième associé de No Design, a réalisé des interviews des créateurs dont on parlait, parce que mettre des vélos, c'est bien, mais faire parler les gens qui les font, qui les portent, qui disent pourquoi ils les ont fait, comment ils les ont soudés, c'est pas mal. Montrer comment on soude la brasure, qui est une espèce de colle, ou comment on fait des vélos pré-industriels, c'est important. Comment on prend des risques et des ruptures pour Mavic, dont je parlais. Donc on a fait des portraits, très graphique, très humain, où les gens nous racontent une histoire qui est tout aussi passionnante que celle d'un aventurier, d'un cinéaste ou d'un écrivain. Ce sont des au travers de ce qu'ils ont fait, et ils parlent de nous, de nos vies, de nos loisirs, de nos modes de déplacement.
Le vélo, c'est ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure, en fait, on parle de low-tech, de high-tech, etc. Et vous parliez de le vélo, vous dites que c'est un objet long-tech. Ça veut dire quoi pour vous, ça?
J'ai encore parlé, mais ça, c'est vraiment un truc théorique que je porte depuis longtemps.
Nous, donc, design... c'est Jean-Louis qui parle beaucoup, mais très bien.
C'est plus vieux en même temps. No design, ça veut dire nouveaux objets. Donc, No design est très connu dans le monde du design pour avoir ouvert le bal des technologies, les objets connectés, etc. Ouais. C'est comme ça qu'on a eu.
D'où la pédale connectée.
D'où la pédale connectée, voilà. Et y a des gens qui, en réaction, comme toujours en France, à la high-tech, disent « bah non, low-tech ». Or, un processeur qui a 30 ans, c'est toujours un objet de high-tech, sauf qu'il est ancien. Ce qui est intéressant, c'est de repartir à l'essence de la physique, par exemple, pour se réchauffer ou se refroidir, de jouer sur des choses qui sont là. C'est pas de la high-tech, c'est de la physique. Et à partir de toutes ces réflexions, on a vraiment modélisé une idée qui est de technologie durable, donc de longue tech, de technologie qui dure longtemps. Et alors, au milieu de ce cimetière, de cet écrin de vélos anciens, qui ont tous plus de 30 ans et qui fonctionnent...
Donc là, c'est dans les bureaux de nos designers.
Voilà, qui fonctionnent très bien, rapporté à d'autres technologies, l'électronique, etc., on a commencé à parler de longue tech, c'est-à-dire de technologie durable. La technologie en tant que telle n'est pas mauvaise, c'est qu'est-ce qu'on fait avec et combien de temps on l'utilise. Maintenant, le combien de temps est important pour l'impact... pour l'impact carbone. Alors, quand les vélos sont en acier, je rappelle à tout le monde, pour ceux qui n'ont pas été bons à l'école, que l'acier, c'est du fer et du carbone.
Ouais.
Et donc, le fer absorbe beaucoup de carbone et il est recyclable quasiment dans le même état, comme l'aluminium. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on est vraiment dans des technologies qui... Alors, il faut de l'énergie pour le faire, mais c'est des technologies vraiment intéressantes et réparables.
Vous me parlez de connectés, d'objets connectés. Vous nous parliez de la pédale connectée. Vous proposez... Est-ce que votre vélo, le vélo que vous avez fabriqué, il est connecté? Et est-ce que donc la question suivante, est-ce qu'il y a beaucoup de vélos connectés dans votre exposition ou finalement pas tant que ça?
Alors oui, notre vélo est connecté, il est électrifié, et il a des composants pour qu'il s'appaire et parle avec des mobiles. On a des vélos connectés effectivement dans cette exposition, pas tant que ça. On en a quand même une bonne partie dans ce qu'on a appelé taffeurs, qui sont des nouveaux vélos avec les usages urbains très fonctionnels.
Donc le vélo très utile.
Cowboy, le Angel, les systèmes anti-vol, des moustaches avec GPS.
Oui. Donc il y a du vélo connecté.
Oui.
Et vous parlez aussi.
Il y a du vélo connecté, mais connecté pour quoi faire? Donc l'anti-vol, le GPS, c'est une bonne chose. Il y a des vélos. On va tomber dans un deuxième poncif, intelligent, par exemple le iWish marseillais.
Ouais.
Il y a une intelligence de gestion de la batterie, non pas par rapport à ce qui reste dans la batterie, mais par rapport à une autonomie et une distance.
Par rapport à ce qui reste, est-ce qu'il faut aller voir la bonne mère.
Et très, 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 très malin,
ouais.
Qui m'a vraiment impressionné. Il faut quand même pas mal de trucs pour m'informer dans ces domaines technologiques. C'est vraiment les choix qui ont été faits vraiment bien. Et le iWish est peut-être un de mes préférés dans le compromis urbain. Il est pas trop grand. Il se plie pour rentrer dans les appartements du panier qui sont pas trop grands. Et il a une intelligence embarquée qui est vraiment, qui fait la différence avec ce qu'on peut trouver dans les pays, disons, asiatiques. C'est vraiment très, très beau vélo.
On parle de le parcours pendant cette exposition. Le parcours, vous parlez des taffeurs, vous parlez des voyageurs, les finisseurs. Donc ça, c'est les vélos de course, les vélos de route, les vélos de performance, c'est ça. Ensuite, il y a les innovateurs, vélo cargo, par exemple.
Non, les vélos cargo, ils sont chez les taffeurs.
Chez les taffeurs.
C'est pour travailler. Non, les innovateurs, c'est vraiment comment la technologie peut améliorer les vélos. Donc c'est typiquement ce prof de maths que Louis adore. Si on parlait.
Oui, Boulol, les aérocycles Boulol créés par un professeur de maths qui a vraiment appliqué les calculs par éléments finis pour faire un vélo le plus léger possible en découpe d'aluminium à plat qui ensuite sont boulonnés pour faire
les unes aux autres, c'est les boulons les plus lourds dans le vélo.
Peut-être.
Ouais.
Et il cherche à faire un vélo le plus léger possible mais en utilisant la science pure et les maths.
Ou Carcasse, qui à partir des technologies locales présentes en Seine-Maritime, près de Rouen, donc il y a de la construction navale et de la découpe d'aluminium de grande épaisseur, a fait un vélo avec deux plaques d'aluminium assemblées, assez léger au final, avec une forme d'esthétique totalement nouvelle, avec un rendement formidable, et qui a une vraie proposition différente et très intéressante.
Qu'est-ce que vous avez envie que les visiteurs et les publics retiennent de cette exposition? Quel est le message?
Un pays qui ne maîtrise pas sa fabrication, qui ne maîtrise pas les objets qui lui permettent de bâtir sa vie, est un pays qui meurt. C'est la question de est-ce qu'on produit les Renault en France ou en Slovénie?
Oui.
Et combien on est prêt à payer pour avoir des objets qui parlent de nous, qui sont nous et qui sont potentiellement, qui peuvent intéresser des gens ailleurs? Qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui restera dans 50 ans dans les brocantes? Qu'est-ce qui restera des Français du Tour de France?
Il y a
quasiment pas de vélo cette année français qui faisait le Tour de France à part la Pierre, je crois.
Ouais.
Look va revenir, mais il n'y était plus. Donc à un moment, on peut pas juste être un pays de services et de services publics. Il faut se dire que les gens qui fabriquent des objets sont comme les gens qui fabriquent des films ou les gens qui font des médias, des émissions de radio comme vous. Ça fait partie d'un patrimoine Et c'est aussi donner des rêves aux petites filles, aux petits garçons. Quand je serai grand, je veux faire des vélos. Quand je serai grand, je veux être designer pour faire des vélos. Il y a pas beaucoup de filles dans le vélo. Je veux être une fille dans le vélo pour faire des choses dans le vélo. Voilà, ça, c'est des choses qu'on aimerait changer. Alors, changer la vie des jeunes, on fait beaucoup d'expos, c'est pour ça qu'on le fait. Mais aussi faire réfléchir les politiques, donner des pistes, montrer des modèles, montrer qu'il y a des bonnes, j'appelle ça des bonnes nouvelles.
Oui.
Il y a des talents, Victoire, Cocotte et les vélos H3.
Oui.
Ultima Mobile, Bouliol,
Ultima,
Carcasse,
c'est les vélos en carbone injecté. Hein.
Exactement.
Ouais.
H12, Corima, Mavic, Avalanche, Pechtregon. Alors Pechtregon, c'est MacGyver, c'est formidable. Sifac,
qui fête ses 40 ans cette année.
Oui, entreprise du patrimoine vivant, c'est formidable, c'est incroyable. Ou la fraise dans le Nord,
où
on a passé le concours des machines dans son atelier qui est l'ancienne manufacture.
Qu'on recevait d'ailleurs à Rayon Libre, on le recevait ici, et ce qui est très sympa avec ce qu'il fait lui, il fait des stages pour devenir cadreur. Viens et apprends à faire ton vélo.
Ouais, faire son vélo soi-même, c'est formidable.
Eh bien écoutez, auditeurs, auditrices, je suis toujours avec Jean-Louis Fréchin et Loïc Le Guen, ça va être l'heure, donc c'est toujours Rayon Libre, ça va être l'heure d'écouter Abel Guggenheim et sa chronique. Et bien aujourd'hui, il nous parle, il nous fait une surprise. Abel, la parole est à toi.
Bonjour. Je vous parlais lundi dernier de la croissance inquiétante d'une situation conflictuelle entre cyclistes et piétons, à l'encontre donc de la convergence habituellement considérée comme évidente entre les intérêts de ces deux modes actifs. Ce sujet continue à alimenter la presse et les réseaux sociaux. Un autre sujet à l'affiche est celui des pistes bidirectionnelles, dont les inconvénients en milieu urbain, depuis longtemps établis par la doctrine, apparaissent clairement aujourd'hui, alors même que ce type d'aménagement s'est largement développé, en particulier à Paris. Mais ce sont surtout les inconvénients pour les cyclistes entre eux qui sont discutés. Dans la continuité de ma précédente chronique, je souhaite vous parler aujourd'hui de leurs inconvénients pour les piétons. Car les pistes cyclables, qui ont sensiblement modifié en la compliquant la perception par les piétons des voies où elles ont été implantées, l'ont même bouleversée sur celles équipées de pistes bidirectionnelles latérales. À cette complexification géométrique s'est ajoutée la non-prise en compte des piétons lors de leur implantation. Plus précisément, la possibilité de les traverser à pied n'a pas été réfléchie comme elle aurait pu et dû l'être, et surtout pas résolue. Cette absence de réflexion globale aboutit à des configurations variées, en particulier à des organisations de traversées piétonnes variables d'un endroit à l'autre. À certains endroits, la traversée se fait par un passage piéton sans feu, tant pour la circulation générale que pour la piste cyclable. Aux endroits où la traversée piétonne de la circulation générale est gérée par des feux, on observe trois modalités. Dans la première, la traversée piétonne de la circulation générale et de la piste cyclable est réglée par le même feu. Dans la deuxième, la traversée piétonne de la circulation générale et celle de la piste cyclable sont réglées par des feux différents. Il y a alors deux caissons piétons dos à dos sur le séparateur entre circulation générale et piste cyclable. Mais il existe encore une autre modalité qui pose problème, où la traversée piétonne de la circulation générale est réglée par un feu et celle de la piste cyclable se fait sans feu. Les piétons doivent alors, au moins théoriquement, traverser successivement la circulation générale en fonction de la couleur des feux, puis, au moins théoriquement, la piste cyclable suivant l'article R415-11 du Code de la route. Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, aux piétons s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire. Cette disposition est incompréhensible et incomprise, inapplicable et inappliquée, aussi bien par les cyclistes que par les piétons, ce qui est bien évidemment source d'insécurité, de sentiment d'insécurité et évidemment de conflit. Et la signalisation ne permet ni aux cyclistes ni aux piétons de savoir avec certitude dans laquelle des trois situations ils et elles se trouvent. Cette disposition doit, à mon avis, être abandonnée et la traversée des voies comportant une piste cyclable doit se faire soit entièrement par feu, soit entièrement sans feu, ce qui revient surtout à rajouter des feux sur des traversées de pistes cyclables. Ce rajout serait coûteux et il me semble que ce serait un coût raisonnable pour un début de pacification.